Reinhard Heun est un juriste brillant et un intellectuel organique du Troisième Reich. Fonctionnaire SS très vite repéré, il gravit les échelons jusqu'au grade d'Oberführer, général. Sa mission, réfléchir à la meilleure façon de faire mieux avec moins. Car l'Allemagne étant son espace vital, c'est l'une des raisons d'être du nazisme, et il faut administrer ce territoire en temps de guerre, donc avec des moyens réduits. De cette contrainte et du cadre conceptuel dans lequel elle s'inscrit, marqué par le racisme biologique et le darwinisme social, naît toute une théorie de la direction des hommes, ou Menschenführung, qui continuera d'alimenter le monde du travail après-guerre. C'est cette théorie que vous analysez, Johann Chapoutot, bonjour.
Bonjour.
Reinhard Heun est le personnage central, ou en tout cas l'un des personnages centraux de votre essai « Libre d'obéir, le management du nazisme » à aujourd'hui, publié donc dans la collection NRFSC chez Gallimard. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste du nazisme. On vous doit des ouvrages comme « Le nazisme et l'antiquité » aux presses universitaires de France, ou « La loi du sang, penser et agir en nazi », c'était déjà chez Gallimard. S'il fallait tirer un fil qui lit tous vos travaux, ce serait de montrer en quoi le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, une exception allemande incompréhensible, mais bien une histoire européenne. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question du management chez les nazis, la rencontre dans les archives, celle de ce personnage, Reinhard Heun?
Alors déjà, je me suis intéressé à la culture normative nazie, c'est-à-dire à toute la littérature juridique, biologique, technique, administrative, qui disait comment se comporter, comment penser, comment agir. Et forcément, j'ai rencontré des problématiques managériales, puisque, comme vous l'avez dit, le Reich s'étend de manière inédite dans l'histoire allemande. Et de manière concomitante, il y a moins de ressources humaines, comme on dit déjà à l'époque, hein, de matériaux humains, de Menschenmaterial, parce que il y a de plus en plus d'hommes sous l'uniforme. Donc, effectivement, il faut faire plus avec moins, il faut faire mieux. Il faut penser la transformation de l'administration pour administrer ce gigantesque territoire. Et par ailleurs, en matière économique, il s'agit de produire selon des quantités absolument inouïe et inédite dans l'histoire allemande, puisque il s'agit de produire un armement qui doit permettre de conquérir la totalité de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural.
Alors, on va tout de suite évacuer ce qui pourrait être un malentendu à la lecture du titre de votre ouvrage, Johann Chapoutot, le management du nazisme, en tout cas du sous-titre du nazisme à nos jours. Ce n'est pas un livre réquisitoire contre les managers. Il ne s'agit pas de dire que le management est d'origine nazie ou une activité criminelle par essence, mais plutôt d'essayer de voir en quoi il a été cette réflexion. Et d'ailleurs, il y a un terme allemand, le terme management est un terme américain. Je vous relaisserai, j'ai déjà tenté en introduction, je ne suis pas sûr de l'avoir bien fait, dire Menschenführung, mais je vous laisserai le redire Johann Chapoutot. C'est plutôt dire qu'il y a une matrice nazie, mais pas non plus qu'il y a une origine nazie du management.
Le management, comme réflexion sur l'organisation optimale d'une structure de production, préexiste bien entendu au nazisme. D'ailleurs, ce que disent les théoriciens du management, c'est que cette origine est française. Hein, c'est un ingénieur français, un ingénieur des mines qui s'appelait Henri Fayol, qui a imaginé ça. Mais alors justement, Fayol est critiqué par les nazis parce que Fayol est français, et rien de ce qui vient de France n'est bon, et parce que par ailleurs cet ingénieur français est trop cartésien, trop mathématicien, trop hiérarchique et trop vertical. Et c'est d'ailleurs ce que reprochent les managers nazis aux Français, c'est d'être trop centralisateur et trop autoritaire. Hein. On est à front renversé hein, dans le rapport ici franco-allemand. Et d'ailleurs c'est pour cela que ils opposent l'administration à la française, la Verwaltung, donc qui est précisément centralisatrice, verticale et hiérarchique, à la Menschenführung, c'est-à-dire la direction des hommes, mais qui est un mot qui est inventé par les nazis pour parler de management, parce que ils ne veulent pas utiliser un terme anglais ou américain. Les nazis sont toujours soucieux de germaniser les termes. Ils opposent donc l'administration à la française, à la Menschenführung, au management à l'allemande, qui, lui au contraire, de manière assez contre-intuitive pour nous, est libérale.
Ça, on va y revenir évidemment, parce que c'est deux des grands enseignements de votre ouvrage. Il y en a d'autres, Libre d'obéir et Johann Chapoutot. C'est à la fois cette approche libérale de la direction des hommes et une certaine opposition à l'État, l'État comme principe d'organisation auquel s'oppose l'élan vital, le Lebensraum. Et ça, évidemment, on y reviendra. Mais encore un mot tout de même de ce Reinhard Heun qui arrive assez vite dans votre livre et qui va servir de fil directeur. Vous le décrivez comme une sorte de Joseph Mengele du droit, ce qui le place, Joseph Mengele, qui était le médecin bourreau nazi du camp d'Auschwitz, ce qui le place tout de même dans une certaine lignée difficile. Qu'est-ce qui fait que vous en parlez comme ça?
La comparaison entre les deux est vite établie, puisque ce sont tous deux de jeunes trentenaires, très travailleurs, très ambitieux, qui ont des ambitions universitaires. Hein. Joseph Mengele torture des jumeaux pour obtenir une habilitation à une chaire de professeur de médecine. Reinhard Heine devient rapidement, grâce à la SS, professeur de droit à l'université de Berlin. Ce sont des gens issus de la moyenne bourgeoisie cultivée, de droite, traumatisés par la défaite de 1918 et qui veulent s'investir dans, non seulement dans leur carrière, ils travaillent pour eux bien entendu, mais aussi dans le relèvement national de l'Allemagne. Ils disposent de tous les codes sociaux, culturels, ils sont bien élevés, ils sont à l'aise dans les mondanités, dans le réseautage. Et ce sont des gens donc absolument implacables dans leur ambition pour eux-mêmes comme pour l'Allemagne. Reinhard Heine termine quand même au grade de général SS, de Oberführer, ce qui est un des grades les plus élevés de la hiérarchie. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement actif dans deux domaines, dans la pensée de l'ordre racial nouveau du continent européen. C'est quelqu'un qui a cofondé une revue qui s'appelle Empire, Ordre Racial et Espace Vital, avec d'autres jeunes gens de sa génération et de sa compétence, eux aussi juristes. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui pense la destruction ou la disparition de l'État qui doit être remplacé par des agences.
Sauf qu'à la différence de Mengele, Reinhard Heine, lui, après la Seconde Guerre mondiale, il va s'en sortir. Et c'est même une sorte de paradoxe, parce que Mengele, lui, s'enfuit, on le sait, change de nom, s'enfuit en Amérique du Sud. D'autres dignitaires nazis, SS, et même de moins importants que Reinhard Heine, tentent de fonder une nouvelle vie, de se cacher au sein de l'Allemagne. Lui ne se cache pas, mais il s'en sort.
Oui, alors il faut voir que Mengele a du sang sur les mains, et ô combien, Reinhard Heine, non. Parce que c'est quelqu'un qui a échappé, justement, au type de gestion des ressources humaines, comme on disait déjà à l'époque de la SS, qui veut que les criminels de bureau soient envoyés sur le terrain assassiner des gens de temps en temps pour connaître un peu la réalité. Alors ça arrive à quasiment tous les collègues de Heine, mais pas à lui, qui parvient à se maintenir à la tête de son institut de recherche sur l'État auprès de l'université de Berlin et qui ne va jamais sur le front de l'Est. Donc il n'a assassiné personne de ses mains et il n'y a aucune nécessité à ce qu'il fuit. Alors il va se masquer pendant quelques années, il va un peu changer d'identité tout en gardant sa famille, et puis très rapidement il va bénéficier des lois d'amnistie à partir de 1949, et de ce grand lessivage, de ce grand blanchiment des anciens nazis, des anciennes chemises brunes, qui vont être adaptées, acculturées à la nouvelle république démocratique, libérale, parlementaire de l'Allemagne fédérale.
Oui, vous citez un certain nombre de cas, hein, exemplaires de cette évidemment de ce passage dans l'administration de la République fédérale d'Allemagne de dignitaires nazis et aussi dans le privé, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi avec la question du management, c'est que les anciens dignitaires nazis sont très prisés dans les entreprises privées.
Oui, parce que d'une part, des gens comme Reinhard Heine sont des gens qui ont été très bien formés, hein, ils ont généralement un doctorat, ils ont une très bonne formation universitaire, et par ailleurs, pendant 12 ans, l'industrie privée ou l'économie privée a vécu une véritable orgie de commandes et de profits grâce à eux, puisque la SS est également un empire économique, un empire concentrationnaire qui loue à des tarifs défiant toute concurrence une main-d'œuvre quasi gratuite donc à l'industrie allemande. Donc ces gens-là, dans l'industrie privée, n'ont pas oublié les services rendus. Et donc on se rend compte qu'après 1945, les réseaux SS, et singulièrement les réseaux du SD, c'est-à-dire du service de renseignement de la SS auquel appartient Reinhard Heine, ces réseaux-là sont en place partout. Dans la haute administration, dans le privé, dans la diplomatie, à l'université, à l'hôpital, dans la police. Et ces réseaux-là permettent de recycler, de recaser ce qu'on appelle les alte Kameraden, les anciens camarades qui sont dans la difficulté. C'est exactement ce qui est arrivé à Reinhard Heine, qui est d'abord employé par un think tank patronal à la fin des années 40 et qui, très rapidement, se voit mandaté pour créer une école de commerce.
Une école de commerce qui est une sorte d'équivalent de l'INSEAD en France, c'est-à-dire une école de cadre pour des gens qui ont déjà fait leur entrée dans la vie active, et ou la Harvard Business School. Et quand je fais la comparaison avec ces deux écoles prestigieuse, l'une française, l'autre américaine, c'est que c'est une école très prestigieuse et que Reinhard Hoeth va former un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises allemandes.
Oui, alors, et puis la comparaison d'autant plus fondée que la Harvard Business School est la matrice, puisque dans le cas de la France, comme dans le cas de l'Allemagne, il y a une forme d'aggiornamento économique et idéologique. On est dans le monde libre, on opte pour le capitalisme atlantiste, libéral, productiviste, et donc il faut faire comme les Américains. Alors, en Allemagne, on crée l'école de Bad Harzburg, qui est dirigée par le général SS Reinhard Hoeth en 1956, et en France, c'est l'INSEAD qui est créé en 1957 par décision gouvernementale, puisqu'il faut bien s'adapter au temps nouveau, au monde qui change, et transformer le pays, comme on dit.
Alors, rentrons un petit peu plus avant, si vous le voulez bien, Johann Chapoutot, dans ce livre, Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours, publié donc chez Gallimard dans la collection NRF Essai, en s'intéressant à cette question de la liberté, parce que c'est vrai que associer le terme de liberté au terme de nazisme, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Or, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une conception paradoxalement libre du travail, d'un travail non autoritaire. On a cité Reinhard Hoeth, il faut citer Wilhelm Stuckart et Werner Best, qui sont donc ces deux juristes qui l'accompagnent, dont l'un est tout de même le père des lois de 1933 sur la restauration de la fonction publique allemande et des lois de Nuremberg, et l'autre, Werner Best, est un des architectes de la Gestapo. Donc bref, des nazis aussi convaincus et importants, et pourtant, ils ont une approche libérale, dites-vous, du travail.
Bah oui, c'est le deuxième épisode contre-intuitif. Le premier épisode, c'est d'associer nazisme et management, parce qu'après tout, enfin, on voit pas très bien le rapport dans un premier temps. Et puis ensuite, on se dit que si les nazis sont intéressés au management, ça va être forcément vertical, autoritaire et parfaitement oppressif. Or, en fait, pas du tout. Pas du tout pour une raison simple, c'est que les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités absolument inédites dans l'histoire, pour produire aussi massivement, il fallait motiver ce que l'on appelait le matériau humain, le Menschenmaterial, qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine. Il fallait motiver le facteur de production qui était le facteur travail. On ne conduit pas les gens à la schlag. Voilà. Et c'est pour cela qu'il y a une réflexion sur la joie dans le travail. Hein. Vous avez un gigantesque comité d'entreprise qui est créé en 1933 à l'échelle du Reich, qui s'appelle la KDF, la force par la joie, l'association Kraft durch Freude, et qui organise les loisirs des ouvriers, qui bénéficient par ailleurs d'une politique sociale et fiscale avantageuse, comme elle est pour tous les Allemands quand ils ne sont pas considérés comme des ennemis du régime, les gens de gauche, ou comme des allogènes, les juifs par exemple. Donc là, il y a une réflexion là-dessus. Par ailleurs, les nazis considèrent que leur État est un État, je cite, un État de droit national-socialiste. C'est-à-dire que ce n'est pas une dictature. La dictature, c'est les soviétiques. La dictature, c'est les rouges, c'est les asiatiques, c'est Staline, hein, c'est l'Orient, la dictature. Les nazis sont fidèles à cette espèce de topos un peu ethno-nationaliste qui a cours au moins depuis Hegel en Allemagne, qui veut que l'Allemagne est la patrie de la liberté. Hein. La liberté s'est déplacée d'est en ouest et elle s'est parachevée dans la Prusse de l'état de droit et évidemment sous le Troisième Reich. Alors ça vaut pour le niveau politique. Au niveau politique, les nazis disent le Reich n'est pas une dictature, puisque le Führer auquel nous obéissons est celui qui a le mieux compris les lois de la nature et de l'histoire. C'est pour ça qu'il est le Führer, non pas par naissance ou par élection, mais parce que c'est celui qui a tout compris.
Donc quand parce qu'il vient du peuple.
Absolument. Il vient du peuple et il a tout compris à la nature et à l'histoire. Donc quand le Führer veut quelque chose, c'est moi qui le veux, même si je ne le sais pas. Parce qu'il est en avance, c'est une avant-garde morale et intellectuelle. Donc, en obéissant au Führer, je m'obéis à moi-même. C'est-à-dire, j'obéis à des principes qui vont faire ma prospérité, ma santé et mon bonheur. Donc, je suis libre politiquement. Ceux qui ne sont pas libres politiquement, ce sont les méchants qui vont en camp de concentration. Mais moi, si je suis un bon nazi, je suis libre. Eh bien, ce qui est vrai au niveau politique est vrai également dans le domaine économique. Parce que dans le domaine économique, il n'y a pas d'opposition entre patron et ouvrier. Ça, c'est une vulgate marxiste. C'est jettiste, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire l'opposition entre les patrons et les ouvriers, la lutte des classes. Il n'y a pas de lutte des classes, c'est une invention marxiste. Il n'y a pas de lutte des classes parce qu'il y a une unité de race. Autrement dit, lorsque je suis employé ou ouvrier, je suis un compagnon producteur, ein Betriebsgenosse. De la même manière que quand je suis dans l'ordre politique, je suis un Volksgenosse, c'est-à-dire un compagnon racial. Et dans l'ordre politique, j'obéis au Führer, c'est-à-dire que j'obéis à moi-même. Et quand je suis dans le Betrieb, dans l'usine, dans l'entreprise, j'obéis au Betriebsführer, c'est-à-dire que j'obéis là aussi à moi-même.
Alors, revenons un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur cette idée du Deutsche Freude, du travail par la joie, Johann Chapoutot, parce que ça fait quand même considérablement penser à une invention récente, ou en tout cas à quelque chose dont on entend de plus en plus parler, à savoir le Happiness Manager.
S'éclater au bureau, faire de ses collègues des amis. Dans cette start-up où la moyenne d'âge est de 31 ans, le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par l'entreprise. Depuis 2 ans, Brunehilde Taco y occupe le poste de Happiness Manager, responsable du bonheur. Ce matin-là, elle fait le tour des salariés pour lancer un jeu concours.
Tout est sur la base du volontariat et sur l'implication. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Voilà, après.
Le salarié ne sera pas sanctionné.
Non, pas du tout. Pas du tout, non.
Favoriser les échanges entre collègues, veiller à leur bien-être, ce sont les missions premières d'un Happiness Manager. Séance de sophrologie, petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause. Autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants.
L'idée maîtresse, c'est avoir en fait des salariés qui sont bien dans leur basket pour pouvoir être performants et aux petits soins de nos clients. Il y a quand même, et tous les collaborateurs le savent, un enjeu business derrière ce poste.
Voilà, un petit reportage sur le Happiness Manager. C'était sur France 3 Bretagne en 2018. Yann Chapoutot, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de dire qu'on est là dans une approche nazie de l'entreprise. Mais malgré tout, cette idée de performance, cette idée de liberté aussi, ils sont libres de venir ou pas, le sont-ils vraiment? C'est une question qui peut se poser. Qu'est-ce qu'il advient d'un employé qui n'irait jamais à ses séances de sophrologie ou de management du bonheur? Et tout ça, c'est aussi quelque chose qui est pensé par ces intellectuels du management à l'époque nazie.
Mais vous savez, sous le Troisième Reich, beaucoup de choses sont sur la base du volontariat aussi. Hein. Lorsque les organisations caritatives du parti nazi, la NSV par exemple, vient faire la quête pour Noël, vous pouvez ne pas donner, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est noté quelque part et on ne l'oublie pas. Donc si à un moment, il y a quelque chose qui dérape dans votre vie, on s'en souvient. Vous voyez, ce genre de choses. Alors ensuite, pour l'idée de rendre les gens heureux au travail, comme le dit notre aimable Happiness Manager, c'est pas du tout à visée philanthropique. Hein, comme elle le dit dans sa langue à elle, cette langue atroce, il y a un projet business derrière, je cite. Hein. Eh bien, pour les nazis également, le but est de reconstituer la force de travail de telle sorte que l'individu soit plus productif. Alors, dans le reportage, cette dame parlait de performance, et ça, j'y insiste beaucoup dans le livre, le terme de performance est un terme absolument cardinal, fondamental dans la pensée nazie. Hein, Leistungsfähigkeit. Alors c'est un terme polysémique qui veut dire productivité, performance, rentabilité, et qui vient du terme leisten, qui veut dire faire, effectuer. Et pour les nazis, c'est très clair, l'individu en soi n'a pas de sens, n'a pas d'existence et n'a pas de droit en dehors de sa productivité. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de produire pour le Reich, de produire pour la race, vous n'avez pas le droit à la vie. C'est très clair. Les les êtres non productifs, hein, je reprends la terminologie nazie, sont considérés comme des vies indignes d'être vécues. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un mot, puisque à partir de 1933, vous avez une loi de stérilisation obligatoire pour ces individus-là, 200 000 stérilisations de 33 à 1945, et à partir de, 400 000 stérilisations de 33 à 45, et à partir de 1939, vous avez carrément la mort, l'assassinat, avec 200 000 morts de l'automne 1939 jusqu'au printemps 1945.
Alors, loin d'être une simple alliance du microphone, c'est-à-dire de la propagande et de la matraque, hein, et de la répression, on voit bien que l'Allemagne nazie aussi est en négociation permanente avec son peuple. C'est ce que vous avez montré dans ce livre, Johann Chapoutot. C'est-à-dire que cette volonté de diriger par la liberté, de rendre libre à l'intérieur, évidemment, de l'obligation d'obéir au Führer, qu'il soit Adolf Hitler ou les différents types de Führer qu'on trouve dans l'armée, dans la politique et évidemment dans l'entreprise, il y a cette négociation permanente avec le peuple.
Oui, alors je suis loin d'être le seul et encore moins le premier à le montrer. Je pense notamment à d'excellents historiens, des collègues allemands comme Frank Bayer par exemple, qui ont très bien montré que le régime nazi est un régime participatif. C'est un régime participatif qui, effectivement, ne repose pas que sur la contrainte et la coercition, mais au contraire, sur une forme de consentement, voire d'adhésion. Et ça passe par des canaux tout à fait divers et très efficaces, par des canaux matériels, parce que le nazisme donne du confort matériel et une jouissance matérielle aux Allemands considérés de bonne race. Un exemple tout simple, lorsque une famille juive disparaît de votre immeuble, c'est dommage, ça peut être triste, mais il se trouve que le lendemain matin, eh bien, il y a un vide-grenier au pied de l'immeuble. Et qu'on peut récupérer un buffet, un piano, un vase, un coupe légumes. C'est évidemment le mobilier de la famille qui est liquidé. Donc ça passe par ça, et ça passe aussi par une politique fiscale et sociale très avantageuse, qui est financée non seulement sur les spoliations des ennemis du régime et des juifs, mais ensuite sur, également sur les prédations gigantesques qui sont opérées à l'échelle de toute l'Europe. De telle sorte que, en 1945, contrairement à 1918, la population allemande ne meurt pas de faim. Elle est plutôt bien nourrie, tout simplement, parce qu'on a affamé la quasi-totalité de l'Europe pour ça. Donc, le régime nazi achète les Allemands. Il les achète très matériellement, mais aussi par des carrières fantastiques, et également par une auto-représentation de soi qui est méliorative, qui est très positive. Vous êtes la race élue, vous êtes les meilleurs biologiquement, vous êtes le sel de la terre, et par ailleurs, vous êtes libre. Vous êtes libre et vous participez à une épopée historique absolument unique dans l'histoire de l'humanité.
Johann Chapoutto, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, est l'invité de la Grande Table. Il publie « Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours », c'est chez Gallimard.
France Culture, la Grande Table, Raphaël Bourgois.
Alors un autre point, Johann Chapoutto, qu'on a évoqué rapidement, mais sur lequel il faut s'arrêter, je pense, maintenant un petit peu, c'est cette question du rapport à l'État et à l'administration. Parce qu'il y a évidemment une idée reçue, c'est l'importance de l'administration à l'allemande et de l'administration dans ce qu'on a appelé, Hannah Arendt a appelé la banalité du mal, c'est-à-dire l'efficacité bureaucratique au service de la solution finale, et qui a permis d'organiser aussi bien la mort de 6 millions de juifs dans les camps de concentration, ou à quelqu'un comme Herbert Bach, que vous citez, de prévoir un plan famine pour alimenter l'Allemagne au détriment de l'URSS, qui prévoyait quand même, qui estimait ce plan famine à 30 millions de morts, je crois, si je vous ai bien lu. Et donc, c'est le rôle de l'efficacité, administrative, managériale. Or, il y a quand même une façon chez vous, dans ce livre, de revenir un petit peu sur cette idée reçue du rapport à l'État et notamment à l'administration, Yann Chapoutto.
Alors déjà, sur l'efficacité allemande et l'efficacité nazie, nous sommes tributaires, quand nous disons cela, du discours que les nazis ont tenu sur eux-mêmes, l'organisation impeccable, les trains qui arrivent à l'heure, etc. Or, dans la pratique, ce que l'on observe à partir de 1933, c'est que le fonctionnement nazi est un gigantesque maelstrom, une cacophonie permanente, très désorganisée, parfaitement anthropique d'ailleurs, et totalement consommatrice de temps, d'énergie, d'argent. Ils sont pas efficaces du tout.
Vous parlez de polycratie, c'est-à-dire de multiplication des petits pouvoirs.
Je reprends effectivement le terme qui a été forgé dès les années 50 par les premiers historiens du nazisme. Cette idée d'une polycratie, c'est-à-dire d'une multitude de centres de pouvoir qui étaient autant de petites féodalités autour de petits chefs, autour de services et d'agences multiples, et que l'on a longtemps considéré comme étant une forme de pratique non théorisée, de pratique spontanée. Après tout, des petits chefs surgissent partout, des initiatives surgissent à tous les endroits et à tous les niveaux, et donc ça entraîne une concurrence et une lutte acharnée entre les services, c'est vrai. Mais par ailleurs, il se trouve que c'est une pratique qui est théorisée par des juristes et des spécialistes des organisations et des spécialistes de l'État, comme Reinhard Höhn, qui est un juriste très porté sur le droit public. Et pour ces gens-là, très clairement, la polycratie n'est pas qu'une pratique spontanée, c'est également une théorie très pensée, qui est en fait une forme de darwinisme administratif, qui consiste à placer sur le même champ de compétences une multiplicité d'instances et d'institutions. Alors, la police, l'armée, le ministère, le parti, et plus les agences ad hoc qui sont créées, qui se multiplient sous le Troisième Reich, ce qui engendre une concurrence absolument démentielle, une lutte quasiment à mort, hein, puisque il y a des carrières qui sont en jeu, il y a des intérêts qui sont en jeu, et puis il y a des luttes de chefs également. Et tout cela aboutit généralement à la solution la plus radicale. Et au fond, au sommet de la hiérarchie, on a une chancellerie assez indolente, au fond, hein, autour d'Hitler, qui arbitre, en dernier recours, en faveur de la solution la plus radicale, c'est-à-dire la plus violente et la plus rapide. Et donc, il y a une course à la radicalisation qui vient de cette émulation sociale darwinienne très, très, très pensée. Et ce qui est très intéressant, c'est que Reinhard Heun fait partie de ces gens qui, au fond, pensent avec 40 ans en avance ce que dans les années 70, on va appeler le New Public Management, c'est-à-dire le remplacement de l'État par des agences ad hoc, des agences qui ont un projet, un budget, une mission, et qui ne sont là que pour cette mission. Alors que l'État, ça pose problème. C'est un peu comme le service public Radio France. Vous voyez, c'est une structure qui est pérenne, qui demeure et qui coûte de l'argent. Voilà. Eh bien, les agences, c'est parfait. Une institution qui n'a de durée d'existence que pour autant que sa mission doit être accomplie. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Alors de fait, ça se passe pas comme ça, parce que les agences ont une forme de pérennité et de persistance dans l'être qui fait que elle se subsiste à elle-même. L'exemple archétypal, c'est le plan de 4 ans de Göring qui devait s'arrêter en 1940 et qui continue parce que ça a créé une féodalité, ça a créé des prébendes, des salaires et des carrières, et donc ça continue après 1940. C'est plus un plan de 4 ans, c'est un plan de 9 ans finalement. Voilà. Mais en tout cas, l'idée est là que l'État doit être pulvérisé. Et c'est d'ailleurs ce que font les nazis dès 1933. Ils détruisent l'État. Ils le font et ils le disent en plus. Jusqu'à Hitler. Hitler, dans ses discours, dit que l'État doit disparaître.
Alors cette tactique par la mission ou l'objectif, elle est aussi présente dans la réflexion, la conception militaire du management. Reinhard Heun va d'ailleurs participer à la refondation de la Bundeswehr, donc l'armée allemande de la République fédérale après la Seconde Guerre mondiale. Luftwaffentaktik, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire en allemand, qui est une conception militaire du management. Ça vient aussi de là, et donc. Qui gouverne par l'objectif, par la mission, gouverne aussi un petit peu par la terreur.
Alors, c'est intéressant parce que Reinhard Heun, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, en fait. Hein. C'est un obsédé de travail, et pour se détendre, il fait l'histoire militaire. Bon, c'est un hobby comme un autre. Il fait l'histoire militaire et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est la transformation de l'armée prussienne après la défaite catastrophique, hein, cataclysmique, de 1806 contre Napoléon. L'armée de Frédéric II a été détruite, de feu Frédéric II, a été détruite à Iéna et à Auerstedt. Et donc, les réformateurs prussiens se sont dit qu'il fallait imiter les Français, c'est-à-dire passer d'une organisation parfaitement mathématique, mécanique et aveugle, qui était la mécanique de guerre, hein, de la ligne frédéricienne, cette ligne parfaitement ordonnée qui évolue comme un automate. Il fallait passer de ça aux voltigeurs et aux tirailleurs napoléoniens. Et les Prussiens ont fait une espèce de synthèse en disant voilà, il va y avoir une forte centralisation au niveau du commandement, le commandement va fixer des objectifs, et c'est ensuite les échelons inférieurs qui vont recevoir cette mission, par exemple, va me prendre telle maison ou telle colline, et qui sont libres de choisir les moyens, les méthodes pour remplir cet objectif. Ce qui motive les subordonnés, puisqu'ils ont une marge de liberté. Mais c'est une organisation perverse, parce que si vous êtes libre de choisir les méthodes et les moyens, vous n'êtes certainement pas libre de définir les objectifs et de choisir les fins, puisqu'elles sont fixées par le commandement. Et ça suscite une souffrance dont, et j'en parle dans le livre, au fond la figure de l'officier ou du sous-officier prussien est l'illustration et l'incarnation vivante. Cet homme qui est toujours décrit comme étant mal à l'aise, hurlant, rageur et glapissant, tout simplement parce que c'est sur lui que repose en dernier recours la responsabilité et donc la culpabilité en cas d'échec. Eh bien c'est ce modèle-là, d'apparence libérale mais très pervers, de management par objectif, si vous voulez, que Reinhard Heun décide d'introduire à l'échelle massive, hein, puisque son école a formé 600 000 cadres, dans l'économie et l'organisation productive.
Et une méthode de management de Bad Harzburg qui prendra ce nom, Johann Chapoutot. On recevait récemment à ce micro Frédéric Joly, qui a publié un très bon livre sur Victor Klemperer, qui a analysé la langue nazie. Et en le recevant, je lui ai posé une question sur la décision du tribunal dans l'affaire de France Télécom, puisque Victor Klemperer a été cité dans cette décision du tribunal sur la question du management et du management par la terreur.
La direction de France Télécom doit-elle revoir ses méthodes de management ?
Depuis 18 mois, 22 personnes se sont donné la mort dans l'entreprise. Les syndicats dénoncent les méthodes de management qui sont trop musclées.
Les cadres de France Télécom ont l'obligation de supprimer des emplois et pour ça, tous les moyens sont bons. Dernier décès en date, fin août, toujours à Lannion, ou encore mi-juillet à Marseille, un salarié de 51 ans avait laissé une lettre dans laquelle il évoquait un management de la terreur.
Ils m'ont remis à la poubelle. Ils m'ont jeté comme un vieux déchet qui ne sert plus. Je suis un déchet.
Voilà, le management par la terreur de France Télécom, c'est un extrait d'un zapping du Monde en 2009. On voit bien Johan Chapoutot, comme je le disais, Klemperer, vous sur le management, il y a cette permanence finalement de cette idée de la terreur et de cette approche qui est héritée, on ne peut pas le dire autrement, de la période nazie.
Pas forcément, parce que au fond, les nazis sont eux-mêmes des héritiers. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que il ne s'agit pas de faire un réductionnisme nazi. Hein, voilà, il s'agit de montrer que les nazis sont bel et bien de notre temps et de notre lieu, c'est-à-dire de l'Occident des 19e et 20e siècles, qu'ils évoluent dans le même monde que nous et qu'ils en sont les acteurs participants. Ils ne sont ni possédés par le démon, ni fous, ni je ne sais quoi, comme on le dit quand on veut s'en protéger, parce que considérer qu'ils font partie de notre monde, nous atteint également. Eh bien, je trouve que dans le procès France Télécom, qui a été remarquablement mené par les procureurs et par une présidence absolument remarquable hein, dans ses propos et dans sa hauteur de vue, eh bien, on a vu à l'occasion de ce procès que nous partagions, de fait, nous, notre monde partageait des choses avec les nazis. Et ce que l'on partage là, en l'occurrence, c'est de considérer le matériau humain, hein, la ressource humaine, matériaux et ressources, pour moi, c'est aussi atroce, hein, un mot comme l'autre. Parce que une ressource, normalement, c'est du charbon, c'est de l'objet, si vous voulez. Et considérer que les gens sont des ressources humaines, je trouve ça odieux. Mais bon, on s'y est habitué. Alors, ressources humaines, matériaux humains, eh bien, les patrons de France Télécom, le top management, comme on dit, avaient considéré ce matériau humain comme étant un poids mort. Les nazis en parlaient également, ils parlaient de ballast, hein. Un poids mort, non performant, puisqu'il s'agissait de transformer, au fond, via France Télécom, les PTT, c'est-à-dire une organisation publique, un service public, en orange, c'est-à-dire une organisation dynamique, agile, flexible, agressive, rentable, etc. Et pour cela, eh bien, il fallait supprimer des dizaines de milliers d'emplois, c'est-à-dire les êtres non rentables, non adaptables, que dans un imaginaire social darwinien totalement assumé, il fallait virer d'une manière ou d'une autre. Hein. Le président Lombard avait même dit que ces gens-là pouvaient bien sauter par la fenêtre, peu importait. De fait, il y en a qui ont sauté par la fenêtre.
Un imaginaire social darwinien qui touche jusqu'à l'université et le CNRS aujourd'hui. On a eu récemment une polémique à ce sujet, Johan Chapoutot. Mais un mot quand même sur ce paradoxe pour terminer d'une société libérale, la nôtre qui tolère un management comme celui-ci, quand une société tout à fait illibérale, en tout cas dans la façon de la concevoir, semblait valoriser aussi un peu plus de liberté qu'on ne le pensait. Bref, il y a une forme, c'est difficile de s'y retrouver après la lecture de votre livre sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Bon, c'est pas si difficile que ça. Au fond, c'est assez simple. L'après-guerre avait tiré des leçons de la grande crise du libéralisme classique de 1929 et de ses suites, avec cette séquence crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique qui amène le nazisme au pouvoir et qui amène la guerre. Et pour conjurer cela, on avait décidé de créer une société solidaire fondée sur la sécurité sociale et un état social. Eh bien, depuis les années 70, c'est un autre discours d'abord, et puis d'autres pratiques qui se sont installées. On a eu en 2007 un des gourous du patronat qui a même dit qu'il fallait déconstruire méthodiquement tout ce que le CNR, le Conseil national de la résistance, avait imaginé, donc plus de solidarité, etc. Il n'y a pas de société, comme le disait Margaret Thatcher, juste des individus en concurrence les uns contre les autres, et ces individus-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des chiffres. Et donc, ce que faisaient les nazis en mettant à distance les choses par un langage particulier, nous le faisons avec les chiffres. Lorsque vous avez des tableaux Excel en face de vous et non pas des êtres humains, eh bien vous pouvez dégraisser, oui.
Libre d'obéir, c'est votre livre, Johan Chapoutot, à lire donc chez Gallimard. Merci d'être passé par la grande table et merci à toute l'équipe pour la partie idée, Jean-Christophe Brianchon et Mathilde Tonfourcade, à la programmation culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et François Bréus, à la réalisation Éric Lancien, à la prise de son Ludovic Auger. Demain, retour d'Olivia Gesbert.